Mon message ce matin s'intitule « Accueillir les soucis ». Parce que franchement, les soucis, c'est une des réalités constantes de nos vies. Alors il y a des faux soucis, il y a des soucis qu'on peut avoir qui ne se réalisent pas. Mais on a des vrais soucis. Des soucis face à l'avenir, quand on est au chômage, on a perdu son travail. Un souci qui reste, qui demeure et qui dure. Souci de santé, pour soi-même ou pour les proches. Des maladies qui durent. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Souci pour les enfants, en particulier les enfants quand ils deviennent grands, deviennent adultes. On voit leurs choix de vie qui peuvent nous inquiéter, on voit les menaces que le futur peut nous présenter. Souci pour les enfants. Et puis pas seulement pour ceux qui n'ont pas d'enfants, souci pour les enfants, mais souci pour ceux qu'on aime. Quand on voit les choix de vie de certaines personnes, quand on voit les directions que certains prennent, on peut se faire du souci. La probabilité qu'elle se termine mal nous semble des fois tellement grande. Et c'est des gens qu'on aime. Souci. Souci dans nos propres vies. On se rend compte que les situations sont compliquées, que l'avenir nous échappe, qu'on a devant nous des interrogations. Souci dans nos relations. Des fois, dans les relations, il y a des choses où on sait que ça sera bien accueilli. Il y a des fois des choses où on est sûr que ce sera mal accueilli. Il faut le faire. On est plein de soucis dans la vie. Et on est soucis, pourquoi? Parce que c'est des situations qui sont là, sur lesquelles on n'a pas de contrôle finalement. Des situations dangereuses, des situations réellement souvent difficiles, et on se sent totalement impuissant. Alors comment accueillir cette réalité? Comment vivre ces soucis? Bien, la première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est compliqué et qu'il n'y a pas de solution simpliste. Et ça, c'est une des choses qu'il faut apprendre. Éviter les choses simplistes. Et je vais essayer de ne pas être simpliste ce matin, mais on n'échappe jamais à ce danger. Alors, pardonnez-moi si je suis un peu trop simpliste parfois, mais je crois important de réaliser qu'il n'y a pas une solution. La vie est compliquée. Et évitons de se focaliser sur des choses trop simples. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible des soucis? Alors, je vais commencer par vous lire quatre versets. Tous archi-connus, que vous avez entendus des dizaines de fois. Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu » par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Hébreux 13, verset 6. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Encore Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Si avez-vous tant de soucis? C'est le même mot, homme de peu de foi. Ne pas s'inquiéter, ne vous inquiétez pas, déchargez-vous. Vraiment? Vraiment? Mais on se sent coupable, parce que trop souvent on a des soucis, on vient vers Dieu, on se décharge, mais on dit, on reprend le souci sur soi, on se reprend cette charge sur soi, on reprend ce fardeau. Je vous dis qu'il ne faut pas être simpliste, parce qu'il y a, je ne sais pas si vous entendez ça, mais il y a un enseignement qui flotte dans l'Église, comme quoi la peur, la crainte, le souci, c'est presque un péché. Ça engendre une espèce de culpabilité. Je me fais du souci, je dois déposer, et puis ce souci, dans un certain sens, il reste. Est-ce vraiment un péché? On entend souvent une phrase qui... C'est dans la Bible, 365 fois, une fois par jour, il est dit « ne crains pas ». On a entendu ça, moi j'ai entendu ça des dizaines de fois. J'ai cherché sur Internet, j'ai vu que Rick Warren, quelqu'un que j'admire énormément, dit ça. Je me suis méfié quand même. Alors j'ai été regarder. Alors dans la Bible, il y a bien 340, 350 fois le mot crainte et les différents synonymes en hébreu et en grec. On arrive à 300, je dirais 50. Mais ne crains pas. Eh bien, ça dépend un peu des traductions, mais il y a peut-être une vingtaine de fois dans la Bible. C'est des légendes. Et de ces légendes, ces idées qui sont retransmises sans arrêt. Et qui font, finalement, qui nous disent, mais ne crains pas, c'est vraiment grave si la Bible insiste pareillement. Mais elle le dit, mais pas de cette manière-là. Qui dans la Bible se fait du souci? On peut reprendre, je vous dis, en grec, il y a trois, quatre mots qui sont traduits soit par souci, soit par crainte, soit par peur, soit par même terreur. La plupart du temps, c'est le mot qui est traduit par souci qui est là. Non, pas la plupart du temps, mais ici, c'est pas tout à fait le même mot, mais presque. Marc 14, verset 33. Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Peur, angoisse, souci. Jésus les a vraiment connus. Il les a vécus. Et Paul, 2 Corinthiens 7, verset 5. Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Un autre, on pourrait en citer beaucoup. 1 Corinthiens 12, verset 25. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Un peu un autre sens du mot souci. Simplement pour vous nous dire, mais 365 fois, ne vous faites pas de soucis, c'est pas vrai. Le souci est une réalité que tous ont connue, que Jésus a connue, que Paul a connue et qu'il a dû vivre tout au long de sa vie. Mais alors pourquoi ces versets qui nous disent « ne vous faites pas de soucis si c'est une chose qu'on vit » Pourquoi ces versets? Ben parce que le souci, l'inquiétude, c'est le moteur de beaucoup de mauvaises réactions. Le souci nous entraîne à des choses qui sont néfastes. Nos réactions naturelles pour gérer le souci ne sont pas celles que Dieu veut. Elles ne seront pas efficaces. Je ne sais pas comment vous réagissez face au souci. En réfléchissant, je me rends compte qu'on a des personnalités très différentes. On a des réactions différentes face au souci. Il y a des personnes, je ne sais pas si elles sont la majorité, je ne pense pas, mais il y a quand même des personnes qui, face au souci, vont chercher à contrôler les situations. Vont se mettre avec beaucoup d'énergie à tout faire pour que la situation change, pour que ce souci soit résolu. Ça peut être par des actions, ça peut même être au travers de la prière, mais on a un seul objectif, c'est que la cause de ce souci disparaisse. Et si on est énergique, si on a cette personnalité-là, eh bien on va contrôler. Et on va contrôler des situations qui ne sont pas contrôlables, tout simplement. C'est une illusion la plupart du temps. On peut aider peut-être, mais finalement, ça nous échappe. Mais c'est puissant, en certaines personnes, de contrôler les choses. Arrêter de contrôler, c'est presque impossible, suivant sa personnalité. Et le souci pousse dans cette direction. Plus courant, en tout cas c'est mon cas, face à du souci, on cherche à fuir. On évite tout risque. On va éviter toute situation qui pourrait nous mettre en souci. Je prêche ce matin, ben je vous promets que ça me donne chaque fois du souci. Et il faut une certaine énergie, même après 30 ans, pour avoir le courage de prêcher. Mais pour beaucoup de nous, face à des situations qui sont délicates, qui sont dangereuses, on va simplement les éviter, on va fuir. Face à des situations douloureuses, justement avec des relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres, qui sont conflictuelles, qui deviennent difficiles, si on a ma personnalité, face à ce souci-là, on va fuir, on va éviter, on va couper les relations, on va s'arranger, ou on va être tout gentil pour que la chose se passe bien. C'est une manière de fuir le souci, le danger, de fuir le risque. Une autre façon de fuir, évidente, c'est qu'on nie la réalité. On s'appuie sur des espèces d'illusions. On se crée un scénario alors qu'il ne correspond pas à la réalité. On compense. Face aux soucis, quand on a des soucis dans la vie, une réaction assez courante, ben, c'est tout simplement de faire autre chose, de se distraire, de regarder des choses qui nous font du bien, ou de se réfugier dans la drogue ou la nourriture peut-être. Les soucis nous conduisent à des réactions qui sont inadéquates. Et c'est pour ça, je crois, que la Bible insiste, pas 365 fois, mais 20 fois quand même, ne vous faites pas de soucis. Quelle est la bonne réaction alors? Comment affronter cette réalité? Ben, la Bible, elle a une manière générale de dire ça. On l'a chanté tout à l'heure d'ailleurs aussi. On a besoin, face à la réalité de la vie, on a besoin de Dieu, de sa présence, de ses ressources. On a besoin qu'il soit avec nous. Et il promet de le faire. Il y a un verset que j'avais oublié et que ta fille Thierry qui me l'avait une fois cité. C'est Ésaïe 41, verset 10. Elle nous avait dit, comment elle s'appelle ? Mélina nous avait dit, ça pour moi c'est le verset qui est important. Alors je vous le lis, Ésaïe 41, 10. N'ayez pas peur, n'ayez pas de soucis, n'ayez pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. C'est la promesse basique de Dieu. Il est avec nous. Jésus l'a dit de multiples fois. Je suis avec vous jusqu'à la fin. La parole nous dit de nombreuses fois, non seulement Dieu est avec nous, mais il est pour nous. Jésus nous dit, ben, je prie pour vous, j'intercède pour vous. Il est présent, il est là, il s'occupe de nous, il répond. On l'a chanté plusieurs fois ce matin, cette présence. Face aux soucis, ben, il y a une réalité, c'est la présence de Dieu. Mais comment saisir cette promesse, cette réalité? Comment la vivre? Comment ne pas tomber dans ces moyens naturels qui reviennent si vite de gérer le souci? Il faut dire essentiellement, il y a deux réactions face au souci, le contrôle et la fuite, pour être un peu simple. Liste peut-être, mais comment s'opposer? Quelles sont les ressources de Dieu pour qu'on n'entre pas dans cette mécanique de contrôle? On a lu ce verset tout à l'heure, je crois. Oui, Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ça vaut la peine de décortiquer un peu ce verset. Il est plein d'enseignements. Il est important parce qu'il parle « Ne vous inquiétez de rien » et puis après, la paix, la ressource. Mais qu'est-ce qu'il dit? La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Pourquoi qu'il dépasse tout ce qu'on peut comprendre? Ben parce que la paix que Dieu donne, elle ne va pas être la paix qu'on peut comprendre. La paix qu'on comprendrait, c'est je prie Dieu et il lève la cause de mon souci. Ça, c'est une paix qu'on peut comprendre. Mais ce n'est pas ça. C'est une paix qu'on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas une paix logique. Ce n'est pas parce que Dieu va ôter le souci parce qu'il n'y a pas de menace. La menace, les dangers, ils restent. Je peux prier pour des guérisons. Je ne suis pas sûr que la guérison va arriver. Je puis prier pour que cette personne pour laquelle j'ai du souci parce qu'elle se conduit mal, elle va tout à coup bien se conduire. J'ai aucune garantie de ceci. Le souci, la peine que ça me fait, elle va rester. Mais la paix de Dieu, c'est comme une enveloppe qui va envelopper, garder ce souci. Le souci reste là. Je crois que c'est important de se réaliser. Le souci, il reste. Mais la paix de Dieu, c'est simplement quelque chose qui fait que ce souci, au lieu d'être le moteur de mauvais comportements, me protège contre ces mauvais comportements. Mais ne croyons pas que le souci va disparaître. Mais on va recevoir cette paix, cette force, cette certitude qui permet de continuer malgré le souci. Il dit une autre chose. La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La ressource de base qui nous est donnée, c'est la présence de Dieu. Eh bien, ce que Dieu donne, c'est nous focaliser, nous centrer, nous ramener sur la réalité de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. Elle va garder notre cœur, c'est-à-dire notre motivation. Elle va garder nos pensées, nos idées, notre manière d'aborder la situation difficile avec un regard différent parce qu'il y a la présence de Jésus, pas la présence simplement spirituelle, mais dans nos pensées, le fait qu'il est là, le fait qu'il s'occupe de nous, prend vie et nous porte. On n'a pas de la paix simplement parce qu'il y a quelque chose de mystérieux qui entre en nous. On a de la paix parce qu'on sait, par révélation, on sait que Jésus-Christ est présent. Et c'est lié ici à la prière. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Pourquoi la prière ? Si je ne suis pas sûr que la situation va changer, je vais savoir l'effet que ça a sur moi, mais je ne suis pas sûr, même si ça peut, que la situation va changer, pourquoi prier ? Parce que j'ai l'impression, pour moi en tout cas, la prière, c'est justement la chose qui rend réelle, si on veut, la présence de Jésus. Finalement, c'est parce qu'on parle à quelqu'un qu'il est là. C'est parce qu'il y a ce dialogue qui s'établit. Et prier, c'est en bonne partie, et c'est aussi très simpliste de dire ça, mais en bonne partie, c'est avoir un contact qui rend Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, un peu réel. Si je ne prie pas, ben, Dieu s'occupe de moi, mais il n'y a pas cette relation, il n'y a pas cette réalisation que c'est lui qui est derrière. Et quelle que soit notre prière, je disais tout à l'heure, on peut avoir des prières un peu illusoires, penser que parce que je prie, il va se passer telle chose. Mais même des prières un peu naïves comme celle-ci, c'est des vraies prières, c'est des prières que Dieu entend. Il ne va peut-être pas y répondre parce que ce n'est pas son chemin, mais il ne va pas nous punir. Non, il apprécie même des prières fausses. Et je crois que c'est important de savoir ça aussi. On peut mal prier et on prie mal, franchement. Mais Dieu accueille ses prières et ça établit quand même cette relation avec lui. Même si on est tout faux, eh bien, le simple fait de se tourner vers lui l'honore. Le simple fait qu'on se tourne vers lui comme un enfant qui vient vers son père en demandant des stupidités, eh bien, le père, il va être touché. Ben, il y a un certain sens où Dieu, il préfère certainement qu'on ait des prières d'adultes, mais même des prières d'enfants, il les accueille. N'ayons pas peur de prier mal. On priera jamais bien, finalement. Au fond, la prière, elle dit une chose. Elle dit, je fais confiance à Dieu. On peut l'exprimer de façon très, très partielle, très, très naïve, mais j'exprime finalement, en priant, une confiance à Dieu. Et Dieu honore celui-ci. En fait, je ne vais pas vers Dieu pour donner des ordres à Dieu. Je ne vais pas vers Dieu pour lui dire ce qu'il doit faire. Je lui dis ce que j'ai envie, ce que je veux, ce que je ressens. Mais finalement, comment dire, l'effet que ça va avoir sur moi, sur la situation, m'échappe, mais il est profondément réel. Mais ça ne va pas nous débarrasser du souci, ça ne va pas obligatoirement, ça peut, hein, mais ça ne va pas obligatoirement changer la situation, mais ça va changer mon regard sur cette situation, mon sentiment. Ça va me donner, et c'est ce que Dieu fait clairement, une confiance. Quand on parle de paix, pour moi, paix et confiance sont des choses qui sont très proches. La confiance, c'est la foi. Et une dimension importante de la foi, ben, c'est la paix, finalement. Il y a un lien entre les deux choses. Si j'ai de la foi, ça engendre de la paix parce que je fais confiance. Foi, c'est confiance en l'autre. Et pour lâcher le contrôle, ben, on a besoin de cette paix. On a besoin de cette confiance. On a besoin de savoir que quelqu'un d'autre s'occupe de la situation. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'en soit l'issue, finalement. Mais ce que Dieu veut nous donner par sa présence, c'est cette confiance simple, enfantine, paisible en lui. Ça, c'est pour ceux qui contrôlent. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt la fuite qui est ma réaction au souci, la façon de... Pour ça, il y a un verset sur lequel je suis tombé un peu par hasard il y a l'autre jour. Josué 1, verset 6 à 9. On l'a peut-être, c'est peut-être au culte quelqu'un l'a cité, je ne sais plus. « Fortifie-toi et prends courage, Josué, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Vous voyez, un peu les mêmes notes qu'on a déjà entendues plusieurs fois. Hein. L'Éternel, ne sois pas effrayé, Dieu est avec toi, fortifie-toi, prends courage. Ça, c'est une chose qui est un peu nouvelle. Fortifie-toi, prends courage. Et ça revient trois fois dans ce passage. On le lit souvent parce qu'il est dit « Fortifie-toi, prends courage, etc. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu réussiras. » Ce n'est pas sur ce côté-là que je veux insister ce matin, même s'il est réel là-dedans. « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, car l'Éternel est avec toi. » Mais fortifie-toi, prends courage. Vas-y, agis. Tu as des choix, une responsabilité. Rester en arrière, fuir, ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, il t'ouvre des portes et il te dit « Prends courage ». Josué, il en avait drôlement besoin à l'époque parce qu'il avait un gros souci. Hein, entrer dans le pays avec un peuple gigantesque, avec le Jourdain qui sépare encore des ennemis. On savait qu'ils étaient horribles. Le souci, il connaissait ce que c'était. Eh bien, il lui dit « Prends courage, vas-y. Ose agir, ose faire. » Et ça ne veut pas dire « ose agir » toujours, ça veut dire, dans certains cas, « ose ne pas agir » aussi. Mais ça demande du courage. Il y a une décision de notre part. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait où on attend simplement que Dieu donne sa paix. Non, il y a un mouvement à entreprendre. On est responsable. Mais pour oser agir, ben il faut, il est dit, « se fortifier ». Ça veut dire se fortifier. Ben, c'est gagner de la force. C'est recevoir des ressources pour pouvoir aller de l'avant. Et quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour aller de l'avant? Ben, c'est essentiellement une confiance en Dieu, mais aussi un discernement du chemin à suivre pour agir. Il faut une certaine sagesse, hein, dans des situations délicates. Je ne sais pas, si on a des enfants qui nous inquiètent, ben, si on va avec nos grands pieds vers eux, ça ne marchera pas. Il y a tout un cheminement à produire. On a besoin d'apprendre, on a besoin de recevoir des indications. On est responsable, puisqu'il faut oser, il faut aller, il faut avoir du courage, mais il faut avoir du courage avec discernement. Et c'est pour ça qu'ici il est dit, fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, puis agis avec fidélité, conformément à ce qui est écrit. Des fois, on cherche loin, mais finalement, il y a une chose qu'on sait tous par cœur, vraiment, on l'a toujours entendu, je fais que répéter, c'est qu'on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de la Bible, on a besoin de la méditer. La sagesse, la force, le discernement nous viennent de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous dirige, mais il utilise cette parole. Pour penser juste, il faut connaître la parole. Et ce n'est pas simplement la lire, c'est la méditer, c'est la réfléchir, c'est s'y confronter. Ce n'est pas suffisant de venir écouter Frédéric qui vous parle de la parole. Vous avez tous besoin, même si vous n'êtes pas un littéraire, même si c'est difficile pour vous, on a besoin de se confronter personnellement aux Écritures, de savoir ce qu'elles disent, de les apprendre. C'est quelque chose qui est à long terme, ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Ce n'est pas « j'ai du souci, alors je l'ouvre la parole pour… » Non, c'est quelque chose qui se construit. Et on le sait, je le répète… Mais qui vraiment parmi nous se concentre et médite et vraiment insiste sur la parole? On lit la parole pour beaucoup, simplement on la l'ouvre le matin, puis on a notre petite lecture. Mais être confronté vraiment à ce qu'elle dit, ne pas entrer dans les idées reçues. Je vous parlais des 365 passages. Trop souvent des choses, on la lit, ça nous rappelle des choses et puis on est satisfait. Non, confronter, réfléchir, méditer. C'est important. Et si on veut pouvoir passer dans la vie au milieu des soucis et des difficultés d'une manière efficace, d'une manière où il y a des victoires, d'une manière où on peut avoir du courage, ben, finalement, c'est peut-être pas la seule ressource, mais une ressource centrale, celle que Dieu nous donne, ben, c'est médite les Écritures. Je me rends compte, c'est facile de dire ça. Si on veut, comme pasteur, on est un peu privilégié parce qu'on est forcé de lire les Écritures. On est forcé d'y réfléchir. Ben, c'est un cadeau que Dieu fait à ceux qui enseignent. Tous, on n'a pas ce cadeau. C'est difficile pour beaucoup. Alors, j'aimerais juste faire, avant de terminer, c'est juste prier pour ça. Prier pour moi, mais pour vous, pour lequel c'est peut-être un défi plus grand. Seigneur, j'aimerais te demander cette grâce à chacun de ceux qui sont là. Cette grâce d'avoir le courage, la foi, les ressources pour lire ta parole d'une telle manière qu'elle soit efficace. De lire ta parole avec le secours du Saint-Esprit, mais de lire la parole dans la méditation, dans la réflexion, dans l'ouverture, dans la capacité de se renouveler et de se confronter avec des choses différentes, la capacité aussi de mettre en pratique ce passage. Parce que c'est vrai, lire et puis être émerveillé, c'est une chose, mais le vivre aussi. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, pour qu'on soit vraiment sérieux et béni dans la lecture et la réflexion sur les Écritures. Amen. Du souci. Et un bénéfice au souci. Si Dieu permet qu'on vive dans un monde où le souci est évident et naturel, ben c'est pas pour rien. Et j'aimerais nous dire, ne gaspillons pas nos soucis. On a tous des soucis. Il ne faut pas les gaspiller. Dans un certain sens, c'est la volonté de Dieu que nous ayons des soucis. Il y a des objectifs aux soucis. Ben, le premier objectif, il me semble, c'est nous éviter, qu'est-ce que j'ai noté, la prétention et les illusions. On a besoin, parce qu'on est vite aveugle, d'être confronté à nos limites, d'être confronté avec cette réalité que les choses, ben, elles sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus délicates, beaucoup moins, on a une maîtrise beaucoup plus faible sur tout ce qui se passe qu'on le pense. Et je crois que c'est important de le comprendre, et les soucis nous l'apprennent, parce que c'est simplement vrai, c'est une simple réalité. Ça nous donne aussi de réaliser notre incapacité, de réaliser notre besoin des autres. Et ça, c'est important. Et les soucis nous font, des fois, nous reposer pas seulement sur Dieu, mais sur les autres. Et je crois que c'est une bonne chose, parce qu'on est là pour s'encourager mutuellement. Et ça nous rend aussi conscients du danger. On est dans un monde dangereux. Il y a un ennemi qui est puissant. Les difficultés, les péchés, les choses qui... Je vois chez mon frère en train de faire des bêtises, mais je suis aussi tenté par ces bêtises, même si je n'en suis pas conscient. Il y a un ennemi qui sait nos points faibles et qui travaille. Et les soucis nous font sentir notre dépendance, le besoin de protection divine qui doit nous animer. Des fois, quand on est dans l'épreuve, on se dit, ah ben oui, on a des ressources. Le souci, c'est nous faire un peu le bénéfice de l'épreuve sans avoir l'épreuve, ou avant l'épreuve, ou par l'épreuve des autres, si on veut. Je crois que le souci, c'est pas ce qui se passe. La situation épouvantable dans laquelle je suis maintenant, c'est voir vers l'avenir. Et des fois, c'est une bonne chose. Les soucis, non seulement, des fois ils ne se réalisent pas, hein, heureusement, mais ils nous ont obligés à confronter une réalité douloureuse sans avoir besoin de la vivre. Et ça, c'est aussi un cadeau. Plusieurs choses encore. Ah ben voilà, encore, je vais en sauter un ou deux, mais le souci, c'est un moteur pour le salut. Luc 12, verset 6. « Je vous montrerai qui vous devez craindre, dit Jésus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je le dis, c'est lui que vous devez craindre. » On est, et ça on l'oublie trop souvent, dans un immense danger, le danger de la mort éternelle. On est des... Heureusement, je pense pour la grande majorité d'entre nous, tous, j'espère, on est des sauvés, mais sauvés d'un vrai danger. Des fois, on dit, il faut pas... Ouais, on ne se tourne pas vers Dieu par crainte, ou si on se tourne vers Dieu par crainte, dans notre culture, ça sonne un peu faux. On se rappelle toujours des sermons incendiaires qu'il y avait dans le temps pour effrayer les gens à cause de l'enfer. Et ça nous dérange, c'est quelque chose qu'on juge comme étant extrêmement faux. Est-ce vraiment si faux? Moi, je m'intéresse de voir, c'est peut-être dans les générations précédentes, mais je connais beaucoup de gens, finalement, qui se sont convertis, qui se sont tournés vers Dieu par crainte. Par peur. Mais c'est évidemment, c'est la crainte de Dieu, finalement. La crainte de Dieu, on se dit, c'est des fois le respect. Mais je crois aussi, c'est la peur de Dieu, la peur du jugement. Et c'est une réalité qu'on occulte dans notre culture. Mais elle existe. Alors, je pense pas que ce soit très utile d'aller vers les gens et de faire des sermons comme Jonathan Edwards, c'était le pécheur dans les mains de Dieu, au-dessus de l'enfer, ou je ne sais plus le titre exact. Non, ça ne passerait pas dans notre culture, mais ça représente quand même une réalité. Et des fois, considérer la peur comme quelque chose de négatif et comme un péché, ben c'est passé à travers d'une dimension de la réalité. Et c'est vrai pour se convertir. Et si je réfléchis à ma conversion, j'ai été converti quand j'ai réalisé tout à coup l'infinie grâce de Dieu. Mais pourquoi j'ai cherché Dieu? Ce n'était pas pour trouver sa grâce. C'était parce que j'avais peur. Vous voyez, c'est un chemin. Et je crois, ne diminuant pas la qualité de ce sentiment. Et pour notre marche aussi. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement le respect de Dieu, mais c'est la crainte de celui qui est le juge. Qui est celui qui domine, qui nous aime, oui, mais quand même. Et puis le souci, c'est aussi le moteur pour agir. Je vous ai dit plusieurs versets déjà tout à l'heure, je les relis, j'en rajoute un. Philippiens 2, verset 20, qui disait « Timothée est le seul à prendre part à mes préoccupations et à se soucier réellement de vous. » Un autre verset, 2 Corinthiens 11, verset 28, Paul dit, et sans parler du reste, « Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. » Finalement, si j'aime, ben je me fais du souci. Si j'aime quelqu'un dans la situation qu'est ce monde, je me ferai du souci. Et ce souci est lié à l'amour, si vous voulez. Si je dis, il y a un commandement de Dieu qui dit « aime ton prochain comme toi-même », on pourrait presque le dire « fais-toi du souci pour ton prochain comme tu te fais du souci pour toi-même ». On ne peut pas aimer sans se faire du souci. Simplement parce que les gens sont pécheurs, simplement parce que le monde est dangereux. Aimer, ça fait mal. Aimer, ce n'est pas un sentiment qui nous élève et qui nous réjouit. C'est aussi ça, disons, mais... Je vous ai dit que je serais simpliste. Non, mais je veux dire, on ne peut pas aimer sans se faire du souci. N'ayons pas peur du souci. Ça nous motive. Si on va agir pour aider les autres, c'est finalement parce qu'on les aime, ok, mais c'est parce qu'on se fait du souci pour eux. Je vous ai dit, ne gaspillons pas le souci. Le souci nous motive. Ne fuyons pas le souci. Non, accueillons-le pour agir et pour aimer. Et si on ne se fait pas de soucis, j'ai quand même le sentiment qu'on ne va pas prier. Il y a un côté où notre prière, alors on doit louer Dieu, on peut louer Dieu, on peut se réjouir, mais la composante souci, c'est vraiment le moteur, un des moteurs centraux pour prier pour soi-même, pour prier par les autres. Je veux dire, c'est reconnaître la réalité du monde, c'est reconnaître notre propre faiblesse. Et une des raisons pour lesquelles Dieu nous a mis dans un monde comme celui-ci, avec ses soucis, c'est pour nous encourager à dépendre de lui, à recevoir de lui, à ne pouvoir rien faire nous-mêmes tout seuls. Et ça, c'est prier. Et prier pour les soucis que j'ai pour les autres, en fait, c'est un écho. C'est un peu ce que Dieu fait, ce que Dieu a. Je ne veux pas dire que Dieu, on peut peut-être pas dire de cette manière-là, Dieu se fait du souci pour nous. Il est au-dessus de ça. Mais l'action que Dieu a envers nous, eh bien, on l'aura en partie, en bonne partie, je pense, parce qu'on a du souci. Ne soyons pas indifférents. Je dirais ça comme ça. Ne soyons pas indifférents. Parce que Dieu n'est pas indifférent. Il n'y a peut-être pas du souci dans le sens où on l'est, mais le sentiment qu'a Dieu envers nous, son écho en nous un peu, c'est le souci qu'on se fait pour les autres. Ne perdons pas cette chose de vue. Et puis pour terminer, accueillir le souci, c'est aussi faire l'expérience de Dieu sur la terre. De deux manières. Je me fais du souci, je prie, et puis Dieu répond à la prière. Ce qui me faisait du souci disparaît. Eh bien, heureusement, c'est quand même ce qui arrive dans une bonne partie des réalités qu'on vit. Les sources de soucis, souvent, la conclusion de la chose, c'est que je me suis fait du souci pour rien. Ce n'est pas un mal, parce que ça m'a forcé à dépendre, à prier. Mais je me suis fait du souci pour quelque chose, et puis derrière cette chose, ben Dieu a répondu, et la source de souci a disparu. Je me faisais du souci pour mon travail, et j'ai trouvé du travail. Et on a cette expérience multiple dans nos vies. Dieu répond aux prières, heureusement. Je vous dis, il ne répond pas toujours, mais dans la majorité des cas, très souvent, ben Dieu répond aux prières. On est à la fin d'une vie, ce n'est pas si vieux que ça, mais quand même, à la fin d'une vie, si on regarde derrière, on se rend compte le nombre de fois où Dieu a finalement été généreux et bon avec nous. Et ça, quand on peut l'attribuer à Dieu, eh bien, ça honore Dieu. D'abord, c'est la réalité, mais ça nous aide à connaître Dieu. Et heureusement, et se faire du souci et avoir le souci levé, ben c'est un message de Dieu qu'on doit recevoir et qu'on peut recevoir. C'est faire une vraie expérience de Dieu. Et on en a tous besoin et on l'a tous vécu. Les soucis ne sont pas pour rien, même si finalement ça s'est pas réalisé. Vous vous rappelez, il y a juste une année, Suzy avait eu des mauvaises nouvelles du médecin. Comme quoi, il y avait des choses. Et pendant 3 mois, on s'est fait du souci. On s'est vraiment fait du souci. Et puis, il s'est révélé, non, c'était rien. Mais ce n'est pas quelque chose de perdu. Franchement, on a vécu, Suzy et moi, pendant ces 3 mois, une belle expérience. Et puis, le fait que finalement, ce souci soit levé, ben, franchement, on en est encore content aujourd'hui. Hein. Ça change quelque chose. Et c'est des bonnes expériences. Et si on vit ces expériences avec Dieu, eh bien, franchement, ça nous donne une image de Dieu qui nous encourage. Mais il y a, je sais pas, 12, 13 ans, ben, moi, j'ai été malade. On m'a annoncé, ouais, il faut continuer. Et puis, j'étais malade, j'avais un cancer. Eh bien, ça s'est bien terminé, mais le souci a été longtemps. Et puis, même après une opération, il reste le souci un certain temps. Mais pour moi, c'est une des expériences aussi qui a changé mon regard sur Dieu. Vivre, pas seulement le souci, mais la réalité de l'épreuve, même si ce n'était pas une épreuve douloureuse physiquement, mais quand même... Savoir qu'on est malade et puis que c'est dangereux, c'est quand même une chose qui n'est pas si évidente à vivre en théorie. Mais dans la réalité, l'expérience du soutien de Dieu, de sa grâce avec moi, de pouvoir compter sur lui, de savoir que ce qui arrive, j'ai pas à me faire, il est d'accord avec ça, même si c'est Satan qui m'a fait ça, ben il a laissé Satan le faire. C'est sa souveraineté. Moi, ça m'a appris quelque chose sur la souveraineté, sur la sur qui est Dieu, que j'aurais jamais appris autrement. Donc les soucis, qu'ils soient libres ou qui finalement soient justifiés, ils sont porteurs de bénédictions, porteurs d'une vraie connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que prier, lire la parole, identifier, voir dans nos vies ce que Dieu fait et que toutes les choses qui nous arrivent, elles sont quand même habitées par Dieu, eh bien... Voilà, c'est connaître Dieu. C'est réaliser que dans ma vie, finalement, il est avec moi. Il l'a promis et c'est une réalité. Et c'est bien de pouvoir en témoigner et puis de dire, c'est vrai, je le sais. Je pense que la plupart d'entre nous peuvent le dire. Moi, j'ai le privilège d'être devant et puis de vous raconter mes histoires. Vous ne pouvez pas, mais je suis sûr que chez chacun de vous, les expériences de Dieu... Elles existent, elles sont profondes. Et vous êtes plutôt jeune pour, il y en a quand même, mais pour la plupart. Mais je trouve ça vaut la peine d'identifier, d'apprendre dans nos vies comment Dieu travaille. Ça nous permet de le connaître. Et les soucis, avec des résolutions ou sans résolution, sont des outils puissants de Dieu pour qu'on apprenne à le connaître. Il y a des bénéfices des épreuves, on le dit souvent, mais j'aimerais vous dire, il y a un bénéfice aux soucis. Et ne le perdons pas. Amen.